Le titre, c'est la double portion, l'adoption et l'héritage. Et lorsqu'on est revenu du réseau héritage, justement, il y a un mois, réseau d'église, je vous avais un peu parlé quelques mots de ce qu'on avait entendu, de ce qui avait touché nos cœurs, et j'aimerais vraiment appuyer là-dessus. Le texte de base, c'est 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 11, un texte fameux, mais que j'avais jamais... On peut lire les textes avec différents yeux, mais cette façon de le voir, je crois, pour moi, est nouvelle, et j'aimerais vous la partager. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Oui, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Et comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon, Élisée regardait et criait, « mon Père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et ce fameux passage qui parle de la double portion a été sujet à beaucoup d'interprétations. La double portion, qu'est-ce que c'est? Alors, qui c'est qui ne l'a pas demandé ici dans sa vie de chrétien, une fois au moins la double portion? Un moment ou un autre dans le ministère, et souvent dans les milieux charismatiques en particulier, on a vu cette double portion comme une double portion de puissance, de don, la guérison, la puissance de faire des miracles, de ressusciter les morts. Et donc, on a été convaincus quelque part, on a mis ça en parallèle avec la restauration du pays. On s'est dit, mais s'il y a démonstration de signes et de puissance, les gens vont voir le Seigneur et ils vont se tourner vers lui et le pays va être restauré, guéri. Donc on a besoin de cette puissance et donc on va la demander à Dieu et on va demander la double portion au Seigneur. Hein, c'est un peu ça le message, et qui n'est pas faux, hein, mais qui est peut-être, vous allez voir, partiel. Et donc on a mis en parallèle la notion de puissance de Dieu, de don, etc., avec la notion de restauration d'un pays, d'une ville et d'une communauté ou des familles. Alors on s'est dit aussi, bien, il faut plus de prières, il faut plus d'adoration, il faut plus d'onction, il faut plus de jeûne, voyez ? Et ça va donner la puissance qui va permettre à Dieu d'accomplir la restauration de nos familles et de nos églises. Alors, beaucoup d'écoles de ministère et dans le monde ont proposé des formations, des équipements, hein, des équipements, et qui ont toute leur place, parce que nous croyons au surnaturel de Dieu, nous croyons aux besoins du surnaturel de Dieu, nous croyons à la guérison, nous croyons en ces miracles, nous avons besoin bien sûr de ces miracles. Et l'accent a été mis là-dessus, et c'était bien, mais pas au détriment d'un autre accent qui est aussi dans le texte, et que parfois... on n'a pas vu. Dans toute la recherche de plus de puissance, de la double portion, on a négligé cette fondation de base du royaume de Dieu, qui est la notion de famille. La notion de famille, et qu'on va trouver ici. Alors, on reprend ce texte, et d'où vient cette idée de double portion ? Donc, c'est Élie, donc, qui est un homme bien original, qui entre en scène dans une période très tourmentée de l'histoire d'Israël, très tourmentée, très confuse. Sa notoriété le précède, hein. On l'a vu, il a été emporté par les chars de feu. Et comme tout bon prophète à l'époque, il a un apprenti. Et un apprenti prophète. Et alors, ce jeune homme, Élisée, avant son départ, il lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Donc, donne-moi la double portion. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que voulait Élisée ? Est-ce qu'il voulait la double portion de puissance d'Élie ? Est-ce qu'il voulait la double portion de miracles, de signes ? Vous voyez, ça c'est super ça. Il a vécu, il a vu ça, il veut le double. Bon, qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment ? Si Élisée avait vraiment reçu le double de tout, alors on pourrait comparer les deux figures et voir qu'effectivement, eh bien, il y aura l'accomplissement du double. Alors Élisée a fait des miracles, plus que Élie, on le voit. Mais ça ne suffit pas. Malheureusement, cette compréhension de ce qu'Élisée a demandé, c'est quelque chose qui a attiré souvent toute une génération, attiré par l'Évangile, mais au lieu d'être attiré parfois par la personne de Dieu, attiré par les signes, la puissance, les miracles qu'on peut en retirer. Et ça, c'est source de désillusion, c'est source de... C'est casse-gueule, je dirais. C'est une voie de garage. Et donc, qu'est-ce qu'il a demandé, Élisée, vraiment ? Je me rappelle la génération dans les années 90, etc., l'accent a été mis sur, au niveau des jeunes, sur « vous êtes la génération Josué, vous avez une destinée, Dieu compte sur vous, vous êtes appelés à bouleverser le paysage spirituel de cette France, et quelque part, le Seigneur revient bientôt, et donc il faut y aller, et beaucoup de jeunes ont fait des choix, parfois radicaux, parce qu'ils ont cru que cette urgence demandait un équipement pour le miracle et le surnaturel. Et beaucoup ont été dans la désillusion. Et ils se sont dit, est-ce qu'on nous a roulés ou quoi ? Qu'est-ce qu'on nous a promis ? Un réveil, il a du mal à venir, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, cette histoire, on la lit avec nos yeux parfois de charismatiques, mais j'aimerais reprendre l'histoire avec les yeux de juifs. Et le texte, c'est toujours une intrigue. Et l'intrigue dans ce texte, il y a comme un début au départ. Et le sommet du texte, c'est la séparation entre Élie et Élisée. Et quand on revient, on reprend les versets 19-21, Élie partit de là, trouva Élisée. On revient au chapitre d'avant, qui nous donne le contexte du texte qu'on vient de lire. Donc, Élie partit de là, trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va, reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, donna à manger au peuple, puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Élisée, ce n'était pas seulement quelqu'un qui labourait. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui travaillait. C'était un fils. Il était un fils dans la maison. Et il recevait, s'apprêtait à travailler dans les affaires de son père. Il n'était pas orphelin. Il était bien ancré dans la famille et il s'apprêtait à hériter. Et donc, il devait hériter les affaires de la famille. Et c'est à ce moment qu'il y a eu irruption d'Élie dans sa vie et tout qui a été bouleversé. Et il a dû laisser le confort familial. Il a dû embrasser, vous voyez, pour tout lui c'était important, laisse-moi embrasser mon papa, ma maman. Donc on voit vraiment quelqu'un qui est... Son identité n'était pas dans son travail, elle était dans le fait d'être un fils dans la maison. Et ça, il a dû le laisser. Il a dû laisser la famille, la communauté sûrement autour, les amis. Et un moment, Élisée, Je pense qu'il a quelque part dû lutter contre cet esprit d'orphelin, quoi. Loin de son père, alors qu'il avait choisi de suivre cet homme qu'il ne connaissait pas. Alors, il ne le connaissait pas, mais le long voyage qu'ils ont fait ensemble, ça a duré quand même quelques années, a fait qu'ils ont appris à se connaître, Élie et Élisée. Et vous savez, le prix du ministère pour Élisée, ça a été d'abandonner la famille et le confort et la sécurité. Et donc, quelque part, sans repère, sans figure paternelle, parce que Élie, c'était quelqu'un de nouveau, il fallait apprendre, connaître. Ça n'a pas dû être très facile. Et lorsqu'on voit cette séparation, petit à petit, on sent que, ça y est, la décision, Élie le sait, il va s'en aller au ciel, Dieu va le prendre. Et chaque fois qu'ils vont dans un endroit, les autres disent, Élie, tu sais que ton maître va être enlevé. Mais lui, il le sait qu'il va être enlevé. Et ça lui fait mal. Taisez-vous, je sais. Mais je ne veux pas quitter. Et quand Élie monte au ciel, on entend ce cri d'Élisée, Père, Père. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est que la double portion, vous allez voir, c'est pas ce qu'on pensait. Il a demandé la paternité. Il était en recherche de paternité et pas de signes, de miracles et de prodiges. Il était en recherche de paternité. Et si on prend la loi juive qui parle de la double portion, on trouve ce texte dans Deutéronome 21. Si un homme qui a deux femmes aime l'une, n'aime pas l'autre, s'il en a des fils dont le premier soit né de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra pas, quand il partagera le bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils aîné est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Le droit d'aînesse, être fils. C'est pas « je veux avoir ce que tu as », c'est « je veux être adopté par toi ». Et le contexte des signes, des prodiges, c'est le contexte de l'adoption, c'est le contexte de la paternité, c'est le contexte de la famille. Tout ministère qui se développe indépendamment d'une relation à la paternité de Dieu et des hommes aussi, parce que Dieu est un père, mais Dieu s'incarne au travers de père et de mère vivants, en chair et en os. Donc tout ce qui est indépendance par rapport à la paternité est en danger. Et nous voyons ce cri « Père, Père ». Donc pour Élisée, le fait d'avoir plus d'onction ne remplace pas, c'était important, mais ne remplace pas ce côté privilégié de dire « Je veux être adopté par toi, je veux être ton fils ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose de capital. La Bible, elle montre l'accent, la pointe du texte, c'est quand il crie « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et alors il a saisi ses vêtements, les a déchirés et s'est revêtu. Tout à l'heure, la vision des pans de la robe de Dieu, cette robe qui nous revêt. C'est une robe d'acceptation. C'est une robe de justice. C'est une robe qu'on reçoit, écoutez-moi bien, même si on a fait des bêtises, mais qu'on le reconnaît. C'est une robe de justice. C'est une robe qu'on ne peut pas fabriquer, ni par notre obéissance, ni par nos efforts, mais qu'on reçoit dans la foi. Et cette robe de Dieu, ces pans de sa robe, ce manteau du prophète, du Père, c'est le manteau qui donne la protection. Quand il n'y a pas ce manteau, on est vulnérable à toute accusation, à toute condamnation, même quand elle est justifiée. Et l'ennemi, il est très fort pour te dire, regarde ce que tu as fait. Et tu le sais bien que tu l'as fait. Mais malgré tout, tu es un fils de Dieu, malgré les échecs, malgré les hauts et les bas. Et tu n'as pas à recevoir aucune accusation, aucune condamnation. Tout ça, c'est Jésus qui l'a pris. Donc ce manteau, c'est un manteau d'adoption. Et en fait, on a besoin d'être, en tant que fils et fille, élevé plus qu'entraîné. L'Église, ce n'est pas un lieu d'entraînement. En premier, c'est un lieu d'adoption. C'est un lieu où les fils et les filles peuvent recevoir ce cœur du Père et ce manteau de Dieu et cette sécurité. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Notre désir parfois de puissance, je parle d'une façon générale, parfois dans le milieu charismatique, malheureusement, eh bien, il a parfois, sans le vouloir, sans le chercher, sans le savoir, entraîné une génération d'orphelins qui, en fait, ne cherchaient pas la puissance et les dons, mais qui cherchaient la relation et qui cherchaient simplement d'être adoptés et d'avoir des pères et des mères. Donc je dis ça parce que l'année qui vient, en 2018, il y aura cette formation Timothée à l'Église. Et cette formation Timothée n'est pas seulement basée sur un contenu, mais elle est basée sur un accompagnement et elle est basée sur un esprit de famille qui veut lever des fils et des filles. Donc je rappelle que cette formation est ouverte, enfin tous peuvent la demander, mais elle est à discerner, on ne peut pas prendre tout le monde, et elle est à discerner par rapport à ceux qui ont un engagement et qui, chez lesquels on discerne un appel aussi particulier. Donc si vous êtes intéressé, demandez, prier ensemble, discerner ensemble. Mais l'idée, c'est que cette notion de formation, ce n'est pas du mentoring, c'est de la paternité et de l'accompagnement. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je ne critique pas tout ce qui est mentoring, mais je dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'amour de père ne peut être déversé que par des pères et pas par des mentors. L'identité de fils ne peut venir que par des pères et des mères et pas par des mentors. D'accord ? Donc, il faut cet esprit de père et de mère dans l'Église. Et c'est pour ça que un des travaux de l'ennemi, c'est de briser la confiance entre les fils et les pères. Il est très fort pour ça. Alors vous savez qu'est-ce qu'il fait ? Il va donner un soi-disant discernement chez les fils pour voir les failles des pères. Qui c'est qui n'en a pas ? Et ce discernement qui voit les failles empêche de donner sa confiance dans les pères et les mères. Et du coup, l'ennemi a gagné. Il n'y a plus de paternité. Tu ne peux plus grandir en tant que fils. Tu t'es fait piéger. Qui sont les pères et les mères dans ta vie ? Et les pères et les mères, dans notre vie charnelle d'enfants, que vous, tous ici, on est fils et filles, un jour ou l'autre, il y a eu déception. Mais ça reste nos pères et nos mères. Dans le monde spirituel, c'est pareil. C'est pareil. Et cette relation d'alliance, elle doit aller jusqu'au bout. Comme Élisée, qui a suivi Élie jusqu'au bout. Et qui ensuite, quand Élie est parti, père. Donc, voyez, l'importance de... Je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière. Cette révélation qui a touché mon cœur il y a quelques semaines, cette importance de la table. Cette importance de la table. Quelle solution pour lever la génération ? Ben, je pense que c'est d'ouvrir nos tables beaucoup plus. Il y a un grand besoin d'appartenance qui est chez le prof de l'homme, qui est chez nous tous. Et Jésus, on voit le modèle de Jésus. Contrairement à beaucoup de rabbins de l'époque, eh ben lui, il mangeait, il buvait. Le cœur à cœur était autour des tables. Il était autour, c'est là qu'on partage, c'est là qu'on discute. La destruction de la famille, c'est quand on ne mange plus ensemble. Tout simplement, il y a des cultures, on ne mange plus ensemble. La famille, elle est là, c'est le début du brisement. Mais tant qu'une famille mange ensemble, partage ensemble les repas, ça reste une famille forte. Et donc, cultivons cette notion de table, c'est là qu'on se connecte et que Dieu nous aide à dresser cette table qui est, comme par hasard, la table dressée contre nos ennemis. La table de la communion, la table de la relation, c'est la plus grande arme spirituelle contre le diable. Plus que les katarama sekatorama sakata. D'accord ? Moi, j'y crois à ça. Je crois au combat spirituel, mais ça n'a pas autant de puissance que la communion et la relation. Et ça, dans le cas de la communion, on peut faire du combat. Mais s'il n'y a pas la relation, qu'est-ce que tu veux faire ? On est comme Don Quichotte avec les moulins à vent. Ça ne marche plus. Les apprentis de Jésus, les disciples qu'il a choisis, sont devenus ses amis. Et donc le monde a été changé, non par des disciples équipés pour faire de la puissance et des prodiges, mais des disciples qui ont été des amis, qui ont été des fils du Père, qui ont été des amis de Jésus. Et l'amitié est le socle de la puissance. L'amitié et la relation est le socle de la puissance. Que Dieu nous aide à vraiment développer de l'amitié. Je pense au niveau des jeunes, je pense des moins jeunes aussi. Que Dieu nous aide vraiment. Et parfois le sentiment d'urgence, vous voyez, Dieu revient bientôt, tu es la dernière génération, etc. Attention à ça. Hein. Ça peut briser la sécurité, la filiation, et on va vouloir s'équiper, signe les prodiges, etc., au détriment d'être dans la sécurité d'une relation filiale et familiale. Voilà. Et que nous tous, on a des traces hein, par rapport à nos pères, nos mères, etc. Et Dieu veut restaurer tout cela et qu'on vive dans un climat d'acceptation. Donc, la table, on avait parlé de ça. Les autres, rappelez-vous, on a parlé de Méphibosheth, hein, comme nous tous, hein, les paralysés, les perclus des pieds, les boiteux. Hop, viens à ma table, je t'invite. Je t'invite. Et Dieu nous invite à sa table tous les jours. Et la table, c'est un lieu de gouvernement. C'est incroyable, cette histoire. Un lieu de gouvernement. Vous connaissez tous les chevaliers de la table ronde, voilà. Ben, la table, un lieu de gouvernement. Hein. Et Jésus, avec ses disciples, cette table, et le premier miracle qu'il a fait, les noces, il a anticipé cette immense table de la fin des temps. C'est quand même étonnant. C'est une table. Je me rappelle la conversion d'un pasteur dans la région de Mulhouse, Didier Renck. Il avait 13, 12, 13 ans. Et en pleine nuit, il s'est vu avec un banquet, des cacahuètes, tout ce qu'il aimait. Et Dieu qui lui dit, vas-y, serre-toi. Il s'est converti. Radicalement. Radicalement. Incroyable. Donc, la vision de la table. Dieu dit, voilà, je t'invite. Viens. Viens avec moi. Viens célébrer. Ça, c'est assez fabuleux quand même. Et dans le psaume 127, je rappelle, hein, c'est quelque chose que j'ai déjà donné, mais c'est la même idée. On le relit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de la douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alors là, c'est intéressant parce que, rappelez-vous, les deux thématiques, la première thématique, Dieu qui bâtit une maison, et ensuite la thématique des fils. Pourquoi deux thèmes dans un même psaume ? En fait, il n'y a qu'un seul thème. Parce que le mot fils, c'est le même mot que bâtir. Bayim, bayim en hébreu, c'est les mêmes consonnes, c'est exactement pareil. Donc Dieu ne bâtit qu'avec des fils et des filles. C'est pour ça que le travail de l'ennemi consiste à briser les relations entre les pères et les fils, les mères et les enfants. Il va tout faire pour que surtout ça ne se produise pas, parce que vous voyez à la fin, il est dit, les fils parleront avec des ennemis à la porte. Il n'est pas dit, les disciples parleront, il est dit, les fils parleront. Et tout vrai disciple, c'est un fils d'abord. C'est un fils d'abord. Et c'est ça qui donne l'autorité de parler à l'ennemi, c'est d'être un fils et une fille. Ça nous parle d'identité. Ça nous parle de sécurité. Et on voit très bien ça dans le psaume 128 lorsqu'il dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de la table. » Autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et je termine que lorsqu'Élisée, il a dit « Père, Père, cette adoption » lui a donné l'onction. L'onction, elle vient quand on sait qui on est et qu'on est fils et fille de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et on voit ça dans Galates 4, je termine par ce texte, un texte extraordinaire, versets 1 à 8. Nous faisons partie d'un réseau d'églises, je rappelle, qui s'appelle le réseau Héritage. Et tout ça, c'est cette thématique. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne différa en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions dans l'esclavage, des rudiments de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et racheter ceux qui sont sous la loi, afin qu'on reçoive l'adoption. Vous savez, la loi, l'accent mis sur la loi au détriment de l'adoption, dangereux, dangereux. Et Dieu nous dit, voilà, je veux que tu reçoives l'esprit d'adoption, l'esprit dans ton cœur par lequel tu cries « Abba, Père », deux fois Père. L'esprit qui dit « Abba, Père », deux fois Père, double portion. C'est la paternité, l'adoption ouvre l'héritage. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'il y ait de fils et de filles, d'identité de fils et de filles. Parce qu'un fils et une fille, c'est celui qui hérite. Parfois, on peut rester dans une église enfant. Enfant, ça veut dire en vieux latin celui qui ne parle pas, celui qui n'a rien à dire. Celui qui ne peut pas rentrer dans l'héritage. Il est pourtant aimé de Dieu, pareil, mais il ne peut pas rentrer dans l'héritage parce qu'il n'est pas fils. Et que Dieu nous aide à ce qu'il y ait des fils et des filles. Je rappelle que la création tout entière, elle soupire, non pas après des enfants, mais après des fils, la révélation des fils et des filles de Dieu. La guérison du monde et de cette terre aujourd'hui et de notre nation de France, elle dépend de fils et de filles qui se lèvent. Malachie chapitre 4, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui fait retourner les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Et un jour les disciples disaient à Jésus, c'est quand que l'esprit d'Élie va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Et Jésus dit oui. Il reviendra, écoutez ça, et il restaurera toutes choses. Vous vous rendez compte? Des cœurs de fils qui se tournent vers des pères et des pères vers les fils, ça amène la restauration d'une nation. Mais c'est dingue cette histoire. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Moi, j'aurais vu la restauration d'une nation avec des signes et des prodiges et des miracles. Et les gens sont convaincus de péché, waouh, Dieu agit, bing, et ça y est, le réveil, il vient. Mais Dieu dit, le réveil, il vient par l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est tout simple, c'est des cœurs de père qui se tournent vers des enfants. Et nous avons choisi, en tant qu'Église, cette année, 2017-2018, de se tourner vers les jeunes. La journée starter, la formation Timothée, et nous tendons la main. Et nous voulons accompagner et donner de notre vie et de notre temps pour que les jeunes leaders se lèvent dans un climat de sécurité et dans un climat d'adoption, afin qu'en tant qu'Église, nous rentrions dans le plein héritage que Dieu a pour nous. Que Dieu nous bénisse vraiment chacun, que Dieu nous aide à ouvrir nos tables. Actuellement, moi, ça fait un an que notre table, on est 10 à table, on a un peu de mal quand même, parfois. Parfois, j'aimerais la table juste avec ma femme de temps en temps, mais bon, c'est, voilà. Mais quand même, que Dieu nous aide à ouvrir nos tables et à développer de l'amitié. J'étais juste un témoignage, je termine. J'étais la semaine dernière chez une jeune fille de l'église, je n'aurai pas son nom. On ne la voit pas souvent d'ailleurs. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec elle. On n'a rien partagé, écoutez-moi bien là, on n'a rien partagé de spirituel. D'accord ? Rien. Mais l'entretien a été extraordinaire. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes comme film ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Etc. Et c'était super. Je suis sorti de là, béni, rafraîchi. Et c'est ça dont la jeune génération et dont nous avons tous besoin. Attention au dualisme. Il y en a parfois, ils font la séparation entre la vie, ils voient tout ça, c'est profane, manger à table, tout ça. Ouh là là, non, non, moi je jeûne, je prie et je loue le Seigneur, d'accord ? Et puis, cette séparation, elle n'est pas de Dieu. Hein ? Alors, il y a des gens qui vont se réfugier dans le manger, le boire, et ce n'est pas non plus la vie de Dieu. Et il y en a qui vont se réfugier dans les choses spirituelles, et là, ça va être super. Là, et... ah, il faut arrêter. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Dieu, c'est le Dieu de la table et c'est le Dieu du ciel. C'est le Dieu du ciel, c'est le Dieu de la terre. Et il veut qu'on célèbre la vie ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on va faire la fête samedi, parce qu'on aime la vie. Et je rappelle que ce lieu, au début, on s'est dit, tiens, il y avait une discothèque avant, pourquoi pas en faire une christothèque ? Alors voilà, on essaye, on avance, on tâtonne, que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour l'esprit d'adoption. Et tu as fait de nous des fils et des filles, avec des pères et des mères. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans cette vocation, cette vision que tu nous as donnée en tant qu'Église, d'être une famille. Et Seigneur, nous attendons à toi et nous bénissons ton nom. Merci pour l'héritage que tu donnes aux fils et aux filles. Merci pour la table. Seigneur, tu frappes à la porte de nos cœurs ce matin. Et tu nous dis, ouvre la porte de ton cœur. Et je viendrai à table, je souperai avec toi. Et je rappelle que cette parole, tu l'as dite à l'église de Laodicée, qui était tiède, qui était ni froide ni bouillante, parce qu'elle avait oublié la table avec le Père. Seigneur, nous revenons à ta table ensemble. Nous venons cette semaine, chaque jour, nous voulons manger à ta table et goûter à la présence du Père, à l'amitié du Fils, à la communion du Saint-Esprit. Seigneur, fortifie chacun de nous cette semaine, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour.